France Musique. Musique et moi. Agnès de Sarthe. Priscille Lafitte. France Musique. Labyrinthe. Un poème de Simon Jardin. 18 ans à Paris, 18 ans à Berlin. Attendant un déclic, suspectant un déclin. Enfant de la croissance et enfant de la crise, ils auront vu mes os saillir sous ma chemise. Me voilà. Rime kitsch et dialecte trash, les cadres d'Europa et l'ambiance de crash. Si peu de souvenirs de mon adolescence, œil mi-clos, je me rêve en appel en absence. Aurais-je été le seul à n'avoir rien renié? Allez, j'ai toujours cru que j'étais le dernier. L'enfance est un cadavre où il n'y a pas d'empreinte. Je porte au bout des doigts mon propre labyrinthe.
Il y a une virtuosité partagée entre Sviatoslav Richter dans cette étude de Chopin et le jeune poète Simon Jardin, si je vous suis bien, Agnès de Sarthe. Qui sont-ils l'un et l'autre pour vous?
Merci Priscille pour cette introduction. Effectivement, pour moi, ce sont deux virtuoses et j'aime pas toujours les virtuoses, mais j'aime particulièrement ces deux-là parce que c'est des voyous aussi. C'est le mélange, le W en fait, voyou virtuose qui me paraît assez intéressant parce que c'est assez rare. On a l'image du virtuose comme quelqu'un d'appliqué, de rébarbatif, qui fait ses gammes à n'en plus finir, qui dit rien, qui est dans un coin, on le remarque pas. Voilà. Et c'est pas du tout la personnalité de ces deux virtuoses-là.
On peut donc être virtuose en poésie.
Ah ben oui, parce que ça me rappelle alors cette question, pourquoi tu joues si vite? Parce que je peux. Et là, j'avais envie de poser la question au poète, pourquoi tu fais des rimes? Parce que je peux. Parce que c'est aussi, enfin en poésie, au XXIe siècle, c'est pas très bien vu de faire des rimes. Puis les virtuoses aussi, d'ailleurs même en musique, ils sont parfois critiqués, on dit, mais il n'y a pas d'âme, c'est un virtuose. Mais ça n'empêche pas, on peut être un virtuose sans âme, on peut être un virtuose avec une âme, on peut être un virtuose voyou, autodidacte, enfin, pas complètement autodidacte, mais le parcours de Richter, c'est quand même magnifique. C'est... voilà, il fait du piano dans son coin et puis il apparaît quoi. Et ça, moi, je trouve ça, enfin, ça m'émeut. Et cette aussi cette capacité à pouvoir faire quelque chose que personne d'autre ne fait. Et dans la joie, et dans la simplicité, et dans le plaisir de l'expression. Cette, je joue vite parce que je peux, et je fais des rimes parce que je peux. Le naturel dans, avec, allié à la virtuosité, ça c'est le rêve.
Nous allons donc faire votre portrait musical ce matin, Agnès Tessart, dans Musique et moi. Établir quelques correspondances entre vos musiques de chevet et votre écriture. On va entendre sa virtuosité, son naturel aussi, votre écriture pour enfants et pour adultes, notamment dans votre dernier roman, L'éternel fiancé, qui vient de paraître aux éditions L'Olivier, et où la musique résonne à toutes les pages. Il y aura du piano ce matin, du chant, du jazz. Nous allons convoquer autour de la table Fanny Mendelssohn, Sergueï Prokofiev, et tout d'abord la flûte de Jean-Pierre Rampal.
Thank you.
Vous êtes flûtiste, vous aussi, Agnès Tessart. Est-ce que cet instrument vous correspond?
Non.
Comment l'avez-vous choisi?
Vous n'y attendiez pas cette réponse. Enfin, je ne sais pas.
Vous avez joué cette sonate?
Oui, voilà. J'ai joué cette sonate et je la joue encore et je l'adore. Et non, quand je dis ça me correspond pas, c'est que si je devais maintenant choisir un instrument pour le commencer, je suis pas certaine que c'est celui-là que je choisirais. Je l'ai choisi quand j'avais 13 ans, je crois, et j'avais fait du piano pendant mes années d'enfance, sans jamais parvenir à rien. Il faut dire que mon professeur de piano enseignait le violon en même temps que le piano, en même temps que le solfège. On était plusieurs élèves, je sais pas, elle n'avait pas très envie d'y arriver. Mais en même temps, j'ai quand même gardé des choses de ces cours, parce que par exemple, j'adore le solfège. Comment expliquer un truc pareil? J'ai osé, je l'ai dit, j'adore le solfège. Voilà, c'est fait. C'est trop tard pour l'effacer. Et donc voilà, le piano. Des années à ne rien pouvoir faire sortir de cet instrument. Et à l'adolescence, le choix de la flûte traversière, je crois que c'était un choix esthétique, mais pas esthétique à l'oreille. Je trouvais que c'était beau. Le côté argenté, qui brille, qui est fin. Et on est grande et on se tient debout avec la flûte comme ça sur le côté. Je crois que c'était pas tellement lié au son.
Et vous vous dites à la réflexion que ce son ne vous correspond pas, n'est pas ce qui émane de vous naturellement.
Oui, il y a quelque chose d'éthéré et quelque chose aussi d'assez contenu, au sens où un fortissimo à la flûte, ben en fait ça n'existe pas. Enfin, ça, il y a des nuances, hein, il y a des nuances possibles. On vient de l'entendre, mais
l'ambitus c'est pas ouais, énorme.
Voilà, ouais. C'est assez restreint. Et c'est vrai que dans mon expression naturelle, je fais beaucoup de grimaces, je peux parler très fort, je peux crier, j'aime bien m'agiter. Donc c'est assez... D'ailleurs, il paraît que quand je jouais de la flûte adolescente, je bougeais énormément. Mais enfin, il semble que c'était presque insupportable tellement je bougeais. Et je crois que c'était parce que cet instrument, justement, ne me convenait pas. N'empêche que j'ai arrêté d'en jouer à 19 ans, et j'ai repris 35 ans après, et c'était merveilleux parce que c'était intact. Donc je suis très reconnaissante à cet instrument qui ne me correspond pas, mais qui me correspond.
Donc vous en restez amoureuse de cet instrument?
Ah oui, en fait oui. En fait oui, mais c'est bien aussi d'être en lien avec quelque chose qui ne nous correspond pas. Je pense que c'est là aussi qu'on découvre, justement ce qui n'est pas encore connu, même de soi, même en soi. Donc je reste absolument reconnaissante à ma flûte d'être restée auprès de moi malgré des années d'ingratitude.
Vous l'avez reprise avec le confinement ?
Non, je l'ai reprise avec un pépin de santé qui a fait que je ne pouvais plus du tout marcher. Et donc j'étais handicapée et très triste de l'être parce que je marchais énormément, je marchais beaucoup. Et donc je me suis dit, tiens, et j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de me promener. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour me promener? Et c'est ce que j'ai trouvé comme équivalent à la promenade. Donc j'ai ressorti cet instrument que je n'avais pas touché depuis 35 ans et il m'a emmenée.
Thank you.
Joa Pires dans l'impromptu en mi bémol majeur opus 90 numéro 2 de Schubert. Agnès Dessart, si la flûte n'arrive donc pas à contenir toute votre personnalité, est-ce que le piano y a réussi davantage? C'est le piano détient la clé de votre enfance.
Oui. Alors cet impromptu là, c'est particulier parce que c'est des heures et des heures à écouter petite. Que là, je pouvais avoir, je sais pas, 6-8 ans, cet impromptu qui était dans un livre-disque d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'était le moment où Alice tombait dans le trou vers l'autre monde. Et c'était cette musique-là qui illustrait. Et je crois que ça m'a fait je crois que ça a été un choc esthétique durable. C'est-à-dire que je m'en suis jamais remise de ce choc esthétique. C'est-à-dire que Alice est toujours avec moi. Et je suis sans arrêt en train de tomber dans le souterrain qui mène à l'autre monde sur cette musique. Et à chaque fois que je l'entends, je suis là, dans l'enfance, dans le lapin blanc. Et elle disait, lapin blanc, attends-moi. Et donc voilà, parfois, il y a comme ça des moments, en fait, tout est rassemblé, des moments parfaits. Où j'avais l'impression que le monde était totalement en place. C'est-à-dire, le monde en place, c'est moi allongée sur le canapé, le meuble avec les disques vinyles qui sent le vernis chaud, parce que chauffé par les machines à cette époque, quand elles fonctionnaient, elles créaient de la chaleur. Et donc, tout sentait le chaud. Et puis, ce livre-disque avec à la fois le texte adapté, bien sûr, de Lewis Carroll, mais bon, c'est un texte, c'est comme une mythologie, donc même adapté, ça garde sa puissance. Et c'est impromptu. Donc, ça, c'est le monde tel qu'il devrait toujours être. Et après, c'est vrai que le piano, c'était aussi l'instrument que je jouais très très mal, mais c'était l'instrument que mon frère aîné jouait mieux que moi. Et après, j'ai connu des tas de ma cousine jouait du piano merveilleusement, et puis des amis jouaient, et j'entendais, et le piano me paraissait être peut-être grâce aussi à cet impromptu, l'instrument parfait, l'instrument qui pouvait tout dire.
Vous avez cité votre frère, Laurent Naouri, si je ne me trompe pas, qui est un chanteur que nous connaissons bien sur France Musique. Et puis, votre père, le pédiatre Aldo Naouri, passait-il par la musique pour vous dire des choses? Est-ce que c'est lui qui avait choisi cette...
Non.
Il vous avait offert cet album?
Je ne sais pas qui l'avait acheté. Hein. Quand on est enfant, je ne crois pas qu'on se pose vraiment ces questions. Il y a les disques, il y a la maison, il y a les fourchettes... ça fait partie de... Mes parents n'étaient pas musiciens, ils étaient mélomanes, tous les deux. Mais j'ai l'impression que la musique...
Elle occupait quelle place?
Elle occupait... Il y en avait tout le temps, en fait, c'était très important. Mais on s'en est très vite emparés, nous les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment besoin d'une prescription... parentale. C'est-à-dire, il ne nous disait pas, tiens, tu devrais écouter ça, ou très vite, ça a été un self-service, la discothèque. Alors, on avait une belle discothèque, on avait de très beaux disques, certains que j'ai pu récupérer d'ailleurs, que j'ai volés.
Vous avez pu vous approprier au sens propre.
Complètement,
La musique de vos parents et la musique de la maison.
Oui, alors on se les est partagés, hein. Je pense chacun a piqué les... Et puis, il y en a qui sont encore... qui sont encore chez eux, mais je crois être partie avec les quatre vinyles des concertos pour clavecin de Jean-Sébastien Bach. Donc, pardon frère, pardon sœur, c'est moi qui les ai. Oui, voilà, j'avoue, un deuxième aveu. Et c'était pas, comment dire. Et moi, j'ai le souvenir de la musique comme à la fois un plaisir familial et aussi un plaisir solitaire, où le choix était un choix autonome.
Est-ce que Sketches of Spain fait partie de ces disques volés?
Alors non, Sketches of Spain, je ne l'ai pas volé. Mais ça, c'était vraiment un apport de mon père. Ça, c'était un de ses disques.
Thank you.
Sketches of Spain. C'est un enregistrement de 1960, Miles Davis à la trompette, des arrangements de Gil Evans. Vous disiez un peu plus tôt, Agnès Dessart, que cette musique vous reliait à votre père. Vous l'aviez découverte grâce à votre père. Vous nous disiez aussi qu'il n'y avait pas de prescription proprement parlée musicale chez vous. Mais est-ce que quand même, il y avait une transmission? Est-ce que vous avez compris des choses? Est-ce que vous avez pu être en relation avec vos parents en écoutant des musiques? Est-ce que c'est le cas pour Sketches of Spain?
C'est moins, comment on peut dire, moins programmatif que ça. Je pense que c'était plus une communion autour de la musique qu'une transmission, parce qu'on est devenu assez vite meilleur musicien qu'eux et plus mélomane qu'eux d'une certaine façon, comme ça arrive. Et c'est merveilleux avec les enfants qui nous dépassent si vite.
Donc il y avait une émulation plutôt entre vous, votre frère, votre soeur.
En fait, ce qu'on vient d'entendre, ça faisait, en fait, on faisait beaucoup de voyages en voiture. C'était quand même la reine de l'époque, la voiture. Et une autre reine de l'époque, c'était la cassette. Et on enregistrait, vous vous en souvenez, et on n'est pas toutes les deux seules à s'en souvenir, les morceaux qu'on aimait sur des cassettes, l'équivalent de la playlist maintenant. Et donc, on passait des heures à préparer et on était tous ensemble à choisir les titres qu'on allait mettre pour la cassette de l'été qu'on allait passer en boucle. C'est-à-dire qu'on voyageait parfois, on faisait, je sais pas, 6 heures de voiture d'affilée et on repassait la même cassette. Et ça fait que et c'est un partage, on est tous dans l'habitacle, on est serrés, on est ensemble, papa, maman, les trois enfants, et on écoute la même musique, et non seulement on l'écoute, mais on chante en yaourt avec, on chante en faux brésilien, on chante en faux anglais, on chante en faux violoncelle, et ça dure des heures, et c'est répété, et ça entre en vous, après c'est, on l'a dans la peau, quoi.
Donc la trompette fait partie de vos instruments de prédilection? Est-ce que c'est un instrument qui peut dire quelque chose de vous, peut-être davantage même que la flûte?
En fait, c'est surtout la trompette de Miles Davis.
C'est ça.
Parce que c'était surtout celle-là. C'est un instrument absolument somptueux. Mais je reconnaîtrais toujours la voix. Pour moi, la trompette de Miles Davis, c'est comme une voix. C'est comme la voix de quelqu'un qu'on aime. C'est très, 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 très familier. Ça va chercher très loin dans l'enfance. Donc, c'est moins l'instrument que la voix qui m'émeut.
Have grown so lonely. For you I sigh, for you, dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me you're wrong. I like the ending, unless I could have one more chance to prove dear. My life a wreck, you're making. You know I'm yours for just a taking. I'd gladly surrender myself to you, body and
de chant à propos de la trompette de Miles Davis. Et c'est votre voix qu'on vient d'entendre, Agnès Tessart, accompagnée par le pianiste René Autreger dans Body and Soul. Est-ce que vous pensez instrument ? Est-ce que vous avez l'impression de vous réincarner dans un instrument lorsque vous chantez ?
Non, j'ai plutôt l'impression de faire quelque chose d'interdit. En fait, c'est très particulier, hein, parce que quand on a un frère, Laurent Naouri, qui est un immense chanteur dont la voix me bouleverse. Une belle-sœur qui est Nathalie Dessay, qui me fait pleurer. À peine ouvre-t-elle la bouche que je pleure déjà. Je pleure parfois même à l'idée que je vais l'entendre. Et puis jouer avec un des plus grands, enfin peut-être pour moi le plus grand pianiste de jazz qui soit, René Autreger. Je vous disais en préparant l'émission, chanter avec lui, c'était comme si Einstein m'avait dit « Tu veux pas qu'on fasse deux ou trois additions ensemble ?» Enfin, ça me paraissait complètement grotesque.
Comment est-ce que vous avez travaillé votre voix pour ça ? Est-ce que Laurent Naouri, Nathalie Dessay, vous ont donné des conseils ?
Ah non, pas du tout. J'aurais même pas dit que je faisais ça. Pour moi, c'était une honte, mais totale. C'est l'avantage de l'âge, je crois. J'ai jamais eu tellement peur du ridicule, peut-être pas assez. Et donc, non, je leur ai rien demandé, en fait. Ce que je faisais, c'était que j'avais conscience d'être en présence d'un immense musicien. J'avais écrit sa biographie et c'est en travaillant à ses côtés, à force de l'écouter, et puis on passait quand même des journées à discuter de ce standard, de cette ode, et il était toujours étonné que je connaisse. Et donc je disais, je reconnaissais. Et c'était lui qui m'encourageait, il me dit, mais viens, on chante, on se détend un peu, on arrête de travailler, tu chantes et tout. Moi, je dis, ok. Et puis, il me disait toujours qu'il détestait les chanteurs et les chanteuses. Alors, je me disais, c'est bien, il va me détester, mais bon, tant pis. Et en fait, je voyais que ça lui plaisait. Et il me disait, et c'était touchant d'ailleurs, il me disait, c'est la première fois que j'arrive à écouter une chanteuse. Je lui dis, c'est parce que je suis pas chanteuse, justement. Je suis très mauvaise. C'est pour ça que ça te dérange pas. Il disait, non, il me disait, quand tu chantes, tu racontes une histoire. Et j'avais jamais fait attention aux paroles. Et quand tu chantes, tout à coup, je comprends de quoi parlent ces chansons. C'est la première fois. Alors, j'étais un peu étonnée, mais je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas? Et comme j'avais toujours chanté, mais comme on chante sous sa douche, hein, et qu'il a dit que ça lui plairait, puis c'était aussi une façon assez originale, finalement, de promouvoir un livre. C'est-à-dire que pendant toute cette année où on a sorti Le Roi René, dans les salons du livre, je venais pas faire la parlotte habituelle. Mais comment avez-vous eu l'idée de ce personnage? J'étais sauvée de ça. Et je montais sur scène avec un pianiste génial et je faisais n'importe quoi. Et ça marchait.
René Hertriger.
Amor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
Que saudade, que vontade. nossa vida. Volta, querido, teus abraços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus.
Tour à tour, un hommage à Bud Powell, à la Bud, René Hertreger au piano, Benoît Kersin à contrebasse, Jean-Louis Vial à la batterie, puis une composition de Vinicius de Moraes, et lui-même au chant, c'était Samba em Preludio, aux côtés du guitariste Toquinho et de Maria Cruza.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
L'écrivain Agnès Dessartes est l'invité de Musique et moi ce matin. Qu'est-ce que vous entendez dans ces voix de Vinicius de Moraes et Maria Cruza?
Beaucoup de choses. Déjà, j'entends les deux voix qui se répondent. Et ça, c'est quelque chose qui me bouleverse complètement, en fait. Le chant, le contre-chant, les voix qui se superposent, les voix en écho, les canons... Voilà, si on veut me faire de l'effet, eh ben c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Après, c'est vrai que c'est un disque d'enfance parce que ça fait partie de la playlist de notre petite famille quand on roulait des heures en voiture. C'était un album qu'on a écouté des centaines de milliers de fois et qui a survécu à l'adolescence et à l'âge adulte, puisque maintenant c'est encore quelque chose qu'on écoute avec nos propres enfants. C'est beau de voir une musique comme ça qui accompagne toute une vie. Donc voilà, beaucoup de choses, oui.
Je précise juste qu'on vous a entendu plutôt chanter Body and Soul. Vous ne l'aviez pas demandé, c'est moi qui ai souhaité qu'on vous entende. Oui. Parce que j'avais envie qu'on parle de ce rapport à la voix que vous avez. Est-ce que vous dévoilez peut-être davantage encore lorsque vous chantez que lorsque vous écrivez?
Je ne sais pas, c'est difficile à dire en fait, ce serait plutôt une question pour à poser à ceux qui me lisent et qui m'écoutent. Mais en tout cas la voix en fait c'est assez inséparable parce que quand j'écris, c'est ma voix quand même que j'entends dans ma tête. C'est mon rythme, c'est ma tessiture, c'est très présent. Mais moi je me sens beaucoup plus dévoilée quand j'écoute des voix que quand ma voix s'élève. Quand ma voix s'élève, je disparais. Je ne sais plus ce que je j'écoute pas en vérité. Je fais ce qui... Je me laisse guider par la musique. Je suis complètement dans l'instant, sans jugement, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, la honte me submergerait. Mais quand j'écoute des voix, c'est là que je suis entièrement dévoilée, en fait. Mais personne ne le remarque. Mais les voix, c'est quelque chose. La voix, ça me hérisse, ça me bouleverse. Quand quelqu'un chante bien, c'est plus fort que n'importe quel instrument pour moi.
Ouais. Là, c'était difficile, par exemple, pour vous de vous réécouter ?
Ah non, pas du tout.
Non,
mais j'ai aucun. Si mon ego se situait là, ce serait extrêmement pénible parce que j'entends toutes les erreurs, les maladresses, les incompétences. Mais ça me dérange pas du tout. En fait, j'ai beaucoup de tendresse et d'indulgence pour la personne qui ose faire ça et qui n'est pas spécialement moi. Et puis, mais j'ai même fait des concerts. J'avais jamais le trac. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. En fait, parce que ça me... Justement parce que je crois que je suis pas très dévoilée. Il n'y a pas d'enjeu, en fait, comme c'est pas mon métier. Et puis, je juge pas, en fait. C'est pas mon truc, le jugement.
Ouais. Vous êtes aussi indulgente ou moins indulgente lorsque vous vous relisez, peut-être ?
Je me relis que pendant le travail. Je me relis jamais après, enfin, ou rarement, ou quand je dois faire une lecture. Mais souvent, d'ailleurs, quand je fais une lecture, quand je donne une lecture dans un festival, je change le texte, je coupe, je le retravaille, parce qu'il est différent. Mais je critique, mais je ne juge pas. C'est pas tout à fait la même chose, en fait. J'ai un regard critique sur ce que je fais. Comme je vous ai dit, par exemple, dans Body and Soul, j'entends que telle attaque est complètement foirée. Mais c'est pas grave. Je le remarque. Et il m'arrive, quand je lis ce que j'écris, de me dire, bon, ça tombe pas exactement comme il faudrait. J'essaye de faire le mieux possible. Bon, une fois que c'est terminé, eh bien, c'est comme c'est. Et en tout cas, le jugement ne fait pas partie de mon travail. La critique, oui, le jugement, non.
Thank you.
Rien ne vous séduit davantage, nous disiez-vous un tout petit peu plus tôt, Agnès Dessart, que deux voix qui s'entremêlent, et quelle voix que ce hautbois et ce violon dans le concerto en lutte mineure de Bach. C'est un chant qu'on entend, d'ailleurs, dans votre livre « L'éternel fiancé ». Et comme vous disiez aussi juste auparavant, l'écriture, la musique se mêlent complètement dans ce livre. C'est de nouveau deux chants que vous entendez là.
Oui, et ça me frappait en l'écoutant, justement, la proximité de ces deux instruments qui ont la même tessiture dans ce qu'on vient d'entendre. Et c'est bouleversant, enfin, d'entendre le hautbois se frotter au violon et réciproquement. Je ne sais plus s'il y a des instruments là. On a l'impression vraiment que ce sont des voix, parce qu'elles sont tellement proches tout en étant si différentes, comme le sont les voix humaines. Moi, c'est ça que je trouve très beau. C'est la diversité des voix et leur proximité parfois. Donc, ça c'est une chose. Et puis après, c'est Bach, quoi. Bach.
Vous dites dans votre livre, je vous cite, « Mon amant s'appelle Jean-Sébastien Bach. » C'est un amant pour la vie, j'ai l'impression.
Ah ouais. Non, mais à chaque fois, je replonge, quoi. J'essaye d'écouter autre chose. Et j'y arrive, d'ailleurs. J'arrive à écouter. Mais je crois que là encore, comme avec l'impromptu qu'on a entendu en début d'émission, l'impromptu de Schubert, j'ai tellement de souvenirs, d'émotions lié à l'écoute de Jean-Sébastien Bach, enfant, et qui était en plus complètement autonome et dans une écoute libre. Personne ne me disait « tu devrais écouter ça, c'est bien ». C'était un choix, mon choix d'enfant. Et d'écouter les concertos pour clavecin à la file, d'en écouter pendant 3 heures sans bouger. Et j'avais des extases, je crois que c'est un de mes premiers rapports à l'extase, c'est en écoutant Jean-Sébastien Bach. Et après, ça a été un petit peu compliqué pour mon intégration sociale, parce que je me souviens d'une fille qui avait un an de plus que moi, qui était tellement classe et qui me disait, alors qu'on avait 11 ans, me demandait ce que je pensais des Beatles. Et j'avais jamais entendu ce nom. Je savais pas ce que c'était. Et j'ai dit, je sais pas. Elle me dit, mais lequel tu préfères? Celui de gauche, je n'en sais rien. Et elle avait été, et je m'étais rendu, l'effroi que ça avait provoqué en elle. J'avais vu dans son regard que j'étais déjà pas bien haut dans son estime, et là j'avais dégringolé. Mais je pense que ce que mes contemporains vivaient avec les Beatles ou avec d'autres groupes, hein, je me souviens aussi d'un copain de classe qui me disait qu'il fallait que j'écoute les Doors, et je me souviens de moi assise sur le même canapé où j'écoutais Jean-Sébastien Bach, et j'avais posé un disque des Doors sur la platine et j'essayais d'y arriver, et j'y arrivais pas, j'étais frigide, j'étais 11 ans frigide. Mais je remettais Bach et non, ça y allait.
Vous êtes assez proche en fait des personnages de ce roman, oui. L'éternel fiancé, ouais. Où on trouve effectivement des adolescents, des jeunes adultes qui se plongent dans la musique classique avec une joie, un enthousiasme fou. C'est un enthousiasme débordant, contagieux. J'aimerais qu'on puisse aborder ce travail d'écriture dans ce livre et le rapport à la musique. Est-ce que vous voudriez bien nous faire la lecture, Agnès Dessart, d'un extrait de votre roman, un extrait où vous parlez précisément d'un quatuor à cordes de Fanny Mendelssohn.
J'ai pensé à notre quatuor amateur d'autrefois, avec mon père, Lise et Dora. Je me suis rappelé la respiration profonde et lente que nous faisait prendre Lise avant d'attaquer les premières notes du quatuor en mi bémol.
Le miracle de notre départ en chœur, violon 1, violon 2, alto et violoncelle, à la même milliseconde, comme si Lise, Dora, mon père et moi avions constitué un organisme unique. La flèche décochée par Fanny Ensel 150 ans plus tôt nous atteignait tous les quatre au même instant, tuait nos individualités et nous faisait renaître dans un seul corps, capable, avec ses quatre voix impeccablement synchronisées, d'articuler la première phrase découpée en trois segments comme un très lent « Il était une fois ». Puis, après un soupir, le violon seul de mon père entonnait le chant, presque aussitôt rejoint par le mien, l'alto de Lise et pour finir le violoncelle de Dora. Il s'agissait alors, pour chacun de nous, de déposer une deuxième mélodie, comme une fine pellicule, sur la première, puis une troisième, et ainsi de suite, à peine décalée, afin de créer une transparence. Lise utilisait une image pour nous aider à prendre ce départ dans le sillage de l'instrument qui nous précédait. « L'oiseau qui se pose sur une branche, nous disait-elle, ne la fait pas trembler. Imaginez que vous êtes cet oiseau, mais que vous devez vous poser tout au bout de la branche, peut-être même sur la feuille située à l'extrémité de la plus petite brindille. Et pourtant, rien ne bougera. » Dora enchaînait. « C'est parce que l'oiseau, juste avant de se poser, bat très vite des ailes, comme ça. » Joignant le geste à la parole, elle agitait les bras, manquant de lâcher son archet et de faire basculer son violoncelle. Mon père fronçait les sourcils, mais sa sévérité se noyait dans un sourire et il savait que nous garderions tous en mémoire l'image de la Benjamine à qui il manquait les deux dents de devant, changée en oisillon qui, au moment d'atterrir, s'agite plus que jamais.
C'est le premier mouvement dont il est question dans votre lecture, Agnès Dessart, dans votre livre, L'éternel fiancé. C'est le quatuor à cordes de Fanny Mendelssohn, que vous nommez Fanny Ensel, d'ailleurs, dans votre livre.
C'est son nom de femme mariée, Ensel, mais parce qu'elle est souvent appelée... En fait, elle est parfois appelée Fanny Ensel, et parfois appelée Fanny Ensel Mendelssohn, et parfois appelée Fanny Mendelssohn. Et c'est le sort de nous, les femmes. Et je trouve que c'est un sort intéressant, savoir si on est avant tout la fille de son père ou la femme de son mari. Qui est-on finalement ?
Ou la sœur du frère.
La sœur du frère, voilà, exactement. Et mais c'était bien. Enfin, j'aimais bien avoir les deux noms parce que d'une certaine manière, en l'appelant Fanny Ensel, je la séparais de son frère aussi,
c'est bon.
Même si je la ramenais chez son mari. Mais en même temps, j'aimais bien garder le Mendelssohn parce qu'il est aussi question de Félix Mendelssohn, puisqu'il est question quand même assez fortement de mariage, de salle des mariages, et quand on pense salle des mariages, ben, on pense à Félix.
Bien sûr.
Donc voilà, mais aussi ce qui est important pour moi, c'était cette compositrice merveilleuse, qui a une œuvre extraordinairement forte, et j'aimais imaginer ce que c'était pour elle de vivre avec ce talent, cette force en elle, et sans vraiment, enfin avec peu de moyens de l'exprimer. C'était des concerts privés, des petites choses à la maison.
Et là, c'est le quatuor ébène qui réhabilite.
Oh là là, et c'est une merveille, et je les en remercie parce que c'est une joie d'écoute, oui. Et extraordinaire.
Vous parlez donc de musique avec beaucoup de ferveur,
oui.
Dans ce livre. Comme si vous vouliez partager avec la lecture la fièvre dont vous nous parliez de votre adolescence. Comme si un peu vous vouliez prendre une revanche aussi sur ces moments où vous vous peut-être sentiez ostracisé parce que vous n'écoutiez que de la musique classique.
Hein?
Et que cette fois-ci, vous voulez la partager au plus grand nombre. Est-ce que je me trompe?
Eh bien, enfin, comment dire, c'est difficile à dire, mais en tout cas, prendre ma revanche pour avoir été ostracisée, ça, je suis certaine que ça n'est pas mon mouvement. J'ai toujours bien aimé être ostracisée. J'ai toujours considéré que me tenir à la marge était un privilège et que c'était un poste d'observation comme il en existait peu. Et je me suis jamais sentie solitaire lorsque j'étais ostracisée, et ça m'est arrivé très souvent, et ça continue de m'arriver. Et en général, on se regarde au bord du terrain entre gens ostracisés, et on dit « toi aussi, tu t'es fait jeter ?» Ouais. Ah. Et c'est ainsi que naissent de très belles et très grandes et très longues amitiés. Donc pour rien au monde, je cesserai d'être ostracisée, oistraquisée, tout ce qu'on voudra. Mais le partage avec les autres autour de la musique, ça oui.
Là, vous cherchez à donner envie. On a envie de se constituer une playlist, en
oui.
fait,
et ben,
des musiques dont vous parlez.
On peut le faire. C'est une belle playlist, je crois.
Oui. Il y a d'ailleurs un Prokofiev dans cette playlist.
Thank you.
On entendait le premier concerto pour piano de Prokofiev, on entendait l'Allegro brioso. Vladimir Ashkenazy au piano, accompagné par l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par André Prévin. Agnès Dessart, Prokofiev vous accompagne régulièrement dans votre écriture. Est-ce que vous écoutez des musiques lorsque vous écrivez ?
Oui, tout à fait. J'écoute plutôt avant d'écrire, hein, parce qu'une fois que je me mets à écrire, j'entends plus rien, même si la musique continue. En fait, je suis trop concentrée, je n'entends plus. Donc c'est du gâchis. Mais il arrive que, même très souvent, que j'écoute de la musique avant de me mettre à écrire, pour trouver quelque chose, pour trouver une atmosphère, pour trouver une intensité. Il y a un certain nombre de scènes dans L'Éternel fiancé qui ont été écrites après avoir écouté plusieurs fois de suite le quatuor de Fanny Ensel Mendelssohn, mais il y a aussi des passages qui ont été écrits après avoir écouté ce premier concerto pour piano de Prokofiev. Et Prokofiev, c'est un compositeur, oui, qui m'accompagne depuis l'enfance, déjà grâce à Pierre et le Loup. Enfin, il y a plein de gens pour qui c'est un souvenir d'enfance très fort, mais après ça s'est pas arrêté là. Il a continué de m'accompagner de plusieurs manières. En fait, c'était aussi un compositeur qui était très très précieux pour mon mari Dante, et donc on a beaucoup écouté de Prokofiev ensemble. Et le fait de pouvoir partager un amour musical, c'est quelque chose de très touchant et de très fort qui marque d'une autre façon. Et puis il y avait aussi j'ai entendu des pianistes jouer ce concerto quand j'étais plus jeune, et c'est aussi des souvenirs très marquants et très bouleversants.
Il y a une rassurante étrangeté dans les œuvres de Prokofiev.
Ah, pour moi, c'est drôle. Étrangeté ? Pour moi, c'est très familier, mais peut-être parce que j'ai des origines russes. Alors, au contraire, c'est très familier. C'est une musique qui me parle de manière totalement instantanée. Il y a aucune traduction nécessaire. C'est l'évidence Prokofiev pour moi.
La musique aide à retrouver une part d'enfant. Est-ce que vous écoutez aussi de la musique lorsque vous écrivez des livres pour la jeunesse, à destination de la jeunesse ?
Moins systématiquement. Oui, je crois que moi, peut-être que si j'en écoute, ce serait plutôt, j'irais plutôt chercher dans le jazz, j'irais plutôt chercher chez La Fitzgerald, qui est une source de joie, par exemple. Je connais aucune voix qui contienne à ce point-là la joie. Et parfois, c'est pas forcément un luxe de, enfin, ça peut être un très très fort soutien quand on écrit pour enfants, d'être en contact très rapide comme ça, avec comme si on faisait une petite perfusion de joie grâce à Ella Fitzgerald.
De légèreté.
Oui, aussi.
The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. When from the gallery, way up high, there suddenly came this mournful cry. Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you'll simply have to boobin-da-do-bin-da-boo-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee
we breathlessly await your masterful baton. Go on and sling it. And if you can't sling it, you'll simply have to bop it.
at the final bar. We greeted you with round applause. But what a great ovation, your interpretation of a double dibby dibby did double bibby dibby. He pleaded out for no. Mr. Paganini, now don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you don't spring it, that means you have to.
Mr. Paganini avec la voix d'Ella Fitzgerald. Mais c'est avec le piano que nous allons refermer cette émission à Agnès de Sarthe. Nous revenons au piano russe.
Oui.
De nouveau. Cette fois, le piano de Rachmaninov. C'est une fantaisie tableau qu'on écoute assez peu. Une barcarolle pour deux pianos.
Pour deux pianos. Oui.
Ouais. Que vous avez découverte comment ?
Que j'ai découverte par le biais de l'interprète, d'un des interprètes, Frédéric Doria-Nicolas, qui est un merveilleux pianiste et qui, en plus d'être un merveilleux pianiste, est comme moi, et comme mon frère, un ancien élève d'Annick Chartreux, qui était professeur au lycée Claude Monet, professeur de musique. Et on est très nombreux à lui devoir soit notre amour de la musique, soit carrément une carrière de musicien, comme Krishna Levy, qui est compositeur pour le cinéma, comme Frédéric Doria-Nicolas, qui est pianiste, comme mon frère, qui est chanteur. Et ils sont très, très, très nombreux. On pourrait faire une liste immense. Donc, voilà, Annick Chartreux, ça a été quelqu'un, et ça continue d'être quelqu'un de très, très important dans la vie de beaucoup de gens. Donc, c'était aussi important pour moi que Frédéric Doria-Nicolas soit là, parce que cette barcarolle est absolument sublime, mais aussi pour pouvoir parler des professeurs, parce que les professeurs de musique, c'est un lien extraordinaire, ils sont irremplaçables.
Donc de nouveau une œuvre pour deux instrumentistes.
Oui, oui, oui.
Là les duos reviennent
ouais, tout à
dans
fait.
Cette émission. Alexandre Kobrine et Frédéric Doria Nicolas dans cette fantaisie tableau tiré de la suite numéro 1 en sol mineur. C'était la Barcarolle de Sergueï Rachmaninov. Merci beaucoup Agnès Dessartes
Merci
pour
à vous.
Ce partage. Je signale qu'en mai prochain, il y aura une soirée conte à la Maison de la Radio. Mm-hmm. Un conte qui est écrit par vous, Agnès Dessartes. Vous serez entourée de Jacques Bonafé,
oui,
c'est ça ?
Qui sera le narrateur. Oui.
Et la musique est écrite par
Léonard Dessartes, mon fils.
Qui est également musicien.
Oui,
il y a donc transmission de la musique.
Voilà, exactement.
À vos enfants. Merci beaucoup à l'équipe qui a permis ce Musique et moi aujourd'hui. Stéphane Touvenin à la technique, Marie Grou à la réalisation, Marie Ferdinand pour la préparation et la mise en ligne. Passez un très bon dimanche sur France Musique et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.